Les jeudis soirs, de 21h à 23h, 2 heures de la meilleure musique électronique à Québec. Sur les ondes de CKIA FM 88.3, c'est Résonance.
Mai 2022, mois de la poésie. Spectacle, art visuel, slam, musique, danse, création, rencontre, thé et poésie. Découvrez toute la programmation du Mois de la poésie au www.moisdelapoésie.ca. Le Mois de la poésie est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.
Bonjour, ici Aude Malaret, voici vos nouvelles du mercredi 11 mai 2022. Le gouvernement du Québec annonce un soutien de 2,9 millions de dollars pour la création du parcours immersif et multimédia Onua Lumina dans la communauté Huron-Wendat de Wendake. Cette aide financière permettra de soutenir la construction d'installations et l'aménagement extérieur de ce nouveau parcours, en plus de contribuer à l'acquisition de matériel technologique. Onua Lumina est un projet mené par Tourisme Wendake. Il s'agit d'un parcours immersif et multimédia en nature, inspiré des mythes et symboles culturels Huron-Wendat. L'expérience d'environ 50 minutes se vivra dès la tombée du jour sur un trajet d'une longueur de 1,2 km dans le bois Érémy. Les travaux seront réalisés dès ce printemps pour une ouverture prévue à l'été 2022. Par souci de respect de la laïcité des institutions publiques, le Bloc québécois demande à la Chambre des communes de voter pour abolir la prière marquant quotidiennement le début des travaux parlementaires. Beaucoup de Québécois ignoraient que la Chambre des communes prononce toujours une prière avant chaque séance. Il serait temps que les élus fédéraux remplacent cette pratique contraire au principe de laïcité, ont déclaré les deux députés du Bloc québécois de la région de la Capitale-Nationale, Caroline Desbiens et Julie Vignola. Le Bloc québécois avait déjà demandé le consentement unanime de la Chambre pour abolir la prière le 12 juin 2019. La majorité des députés s'y était alors opposée. Limoilou en vrac a dévoilé mardi matin les détails de la programmation de son grand bazar du Vieux Limoilou et de Limoilou en musique qui reviennent du 3 au 5 juin 2022. L'organisme accueillera pour la première fois un marché des petits entrepreneurs en plus de prestations des jours de cirque. Ce grand bazar animera la 3e avenue avec son marché d'artisans. Il et elle seront plus d'une soixantaine sur place avec leurs créations au cœur de l'ambiance musicale et gastronomique du secteur. Des prestations auront lieu tous les soirs sur les deux scènes installées dans le quartier. On pourra aussi assister au spectacle du programme Cirque études secondaires de l'École de cirque de Québec le 5 juin. Le centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier propose la diffusion du documentaire « Ce monde n'est pas fait pour vous » suivi d'une discussion avec la réalisatrice Marine Haber à 19h ce jeudi 12 mai. Le film dure 70 minutes, la discussion se terminera vers 21h. L'entrée se fera à prix libre, prix conseillé de 5$. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Bonjour et bienvenue à l'émission « Le jardinier paresseux ». Sur les ondes de CKRFM 88.2 et également sur Facebook Live à ce site du Journée Paresseux. Je m'appelle Larry Hodgson et comme à chaque semaine, je vous rejoins de mon bureau au sous-sol, l'endroit où je me case pendant 12-13 heures par jour, dans le fond, à travailler sur mon blog, entre autres. Et voilà, on est dans mon milieu. des plantes tout autour, même si je suis au sous-sol. Bon, quand même, quelques notes pour commencer la journée. D'abord, vous avez vu le temps qu'il fait. Wow! Après avoir un printemps plutôt froid et en retard, et tout d'un coup, la neige est partie et ça chauffe pas mal. Il reste quand même que les nuits deviennent plus fraîches. C'est preuve que ce n'est pas vraiment l'été. Et d'ailleurs, la preuve que c'est l'été dans la tête de bien des gens, c'est que mon blog a fait un saut, là, pouf, samedi dernier. On passe de quoi, 40 000 vues par jour à 108 000 par jour. Imaginez-vous, 108 000 personnes qui regardent le blog dans une journée. C'est quelque chose. En tout cas, donc c'est le signe qu'il y a de l'intérêt. Le problème, c'est que les débutants commencent tout trop tôt. Donc, il faut vous retenir des fois. C'est bien pour des plantes rustiques maintenant, c'est parfait. Certains légumes moins frileux, un peu semés, disons quoi, des pois, des épinards, des choses comme ça. Mais là, là, sortir encore nos plantes frileuses comme des tomates, que le jour, pas la nuit. En tout cas, c'est encore trop frais la nuit. Et ça sera le cas encore pendant encore 2 semaines au moins, d'après moi. Donc, faites attention avec ça. Aussi, la semaine dernière, il y avait une question pour laquelle je n'avais pas de réponse. Je ne me souviens pas qui avait posé la question, mais quelqu'un voulait savoir qu'est-ce qu'il peut avoir comme légumes à cultiver sur un potager qui est inondé au printemps. Et moi, c'est la première fois qu'on me pose une question semblable. Je n'ai jamais vécu non plus dans une situation où mon potager était sous l'eau au début de la saison. Mais je comprends, pour certaines personnes, ça peut être un problème. Fait que j'ai fait quelques recherches et le choix est quand même pas fort pour le début de la saison. Une fois que tout s'est drainé, bien sûr, mais j'ai trouvé les plantes suivantes. Les pois, les épinards, le céleri, alors puis c'est vrai que le céleri aime la fraîcheur et l'humidité, un légume indigène qu'on connaît peu, la patate en chapelet. Ça pousse carrément dans une situation semblable. Et aussi la menthe aussi, qui irait très bien dans ces conditions-là. Et fait que ça, j'ai fait un peu tout le tour sur ce que je vais penser vous dire aujourd'hui. Est-ce, je ne sais pas, Michel, est-ce qu'il y a des questions? Sans problème.
Pour l'instant, non, c'est tranquille sur le chat, mon cher Larry.
Mon devoir à jardiner, et je les comprends. Alors, écoutez, une question, première question ici. C'est de Catherine qui dit, j'ai un beau vieux pommier qui a commencé à avoir de la mousse séchée dessus, mais devient encore en partie en fleurs le printemps venu. Je le garde, mais pas pour le récolte des pommes, pour la beauté. À la base du tronc, il y a des formes charpentières qui grougent le tronc. Et j'ai une chance de sauver mon pommier, et si je réussis à déloger les fourmis, les voisins de pommier en question. Ils commencent aussi à avoir comme de la mousse. Pour elle, c'est que cette mousse qui paraît sur ses arbres, elle s'inquiète, et aussi des fourmis charpentières, est-ce qu'on va se déplacer? Bon, la première chose, la mousse qu'elle voit, ça se peut que ce soit vraiment de la mousse, si oui, ça va être vert, mais c'est probablement des lichens. Des lichens, c'est une espèce de créature, si on peut dire, combinant les étreintes des champignons et des algues. Donc, c'est une en combinant les deux. Ils se poussent sur le bois, sur les roches, à différents endroits, et ce n'est pas nuisible. Donc, le fait que vous ayez ça sur l'écorce de votre pommier ne veut rien dire. Ça peut indiquer que votre arbre est vieux, parce que les lichens poussent très, très lentement. Mais autrement, c'est absolument pas nuisible, ni pour le pommier, ni pour le chêne. Donc, pas un problème du tout. Donc, on oublie ça. Charpentière maintenant, fourmis charpentière. Ces fourmis-là vivent du bois. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est une petite partie. La grande partie de leur vie est à l'intérieur. Donc, elles vivent du bois, vont carrément gruger le bois, faire leur nid à l'intérieur, probablement, je présume, dans votre cas, dans le pommier. Est-ce que ça veut dire que l'arbre est condamné? Pas du tout. On voit des vieux arbres qui ont 150 ans, qui sont complètement vidés. Et ça vit encore. Mais ça veut dire que l'arbre est vieux et ça se peut. Que ce soit un jour plus vers la fin de sa vie qu'au début. Mais si vous ne pouvez pas juste tuer des fourmis que vous voyez et penser que c'est réglé, non, il faut aller traiter pour tuer la reine, celle qui pond les œufs qui entretient la colonie. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais juste pour dire que ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, les fourmis ne migrent pas vers d'autres choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les fourmis charpentières ont une colonie. Elles vont vivre avec leur reine, elles vont retourner toujours voir la reine dans son nid. Et s'il y a une autre colonie, ça peut avoir lieu ailleurs. Mais il n'y a pas de lien direct entre les fourmis qui peuvent voyager, disons, de votre arbre infesté à un autre. Ça ne transportera pas. Les reines voyagent par leurs propres ailes et le font au milieu de l'été. Donc, ce n'est pas aucun lien avec ça, aucun risque du tout. Voilà.
On a maintenant des questions sur le chat. Oui. Je vais y aller pour commencer avec un commentaire de Jeanne Ouellette qui dit, parce que tu as parlé de météo tout à l'heure, elle dit « Dans mon local éclairé au néon sans fenêtre, je rêverais d'être dehors. »
Ah oui, mais je comprends. Moi, ce que je peux faire, c'est que j'ai beau être dans un sous-sol. Hey, ça marche pas l'hiver. L'hiver, là, on voit rien. Tout est couvert de neige ici. Mais l'été, je peux voir dehors par les fenêtres. Pas à mon niveau, mais en haut, je vois de la verdure, je vois des oiseaux, des animaux, et c'est quand même encourageant. Mais c'est bien de voir dehors. Hein? On aime ça.
Puis, elle a ajouté une question. Elle dit, question générale, pas particulièrement de saison. Elle dit, j'ai démarré un grand nombre de boutures de feuilles de succulentes. Plutôt que de multiplier les petits pots, je me demandais s'il serait souhaitable ou préférable de les rassembler dans un plus grand agencement. Des conseils, taille de pot, profondeur, substrat, contre-indication. Merci.
Oui, écoutez, ça, ça devient une question de choix personnel. C'est certain que les deux peuvent fonctionner. Vous pouvez avoir une multitude de petits pots, chacun avec une seule sorte dedans, ou plusieurs de chaque variété, à vous de décider. Ça, c'est une option. Mais la plupart des succulents vont bien ensemble aussi. Évidemment, il y a quand même des exceptions. Si vous savez que plante X est une variété qui aime le plein soleil et plante Y préfère un peu d'ombre, ben là, mettez-les pas ensemble. Mais je peux dire qu'en général, la plupart des succulents ont les mêmes goûts. Donc, c'est pour être dans la même pot. Et dans ce cas-là, à vous de décider. Quelle taille? Ça dépend de vous, l'espace que vous avez, quelle profondeur. Ben, en pensant, les succulents n'ont pas besoin de grande profondeur. Contrairement à d'autres plantes, leurs racines vont pas trop, tout vers la surface. En pot, de toute façon, ils ne peuvent pas aller en profondeur, il n'y a pas de profondeur. Donc, quand même, vous avez un plateau, ça pourrait fonctionner. Par contre, il faut toujours un drainage. Hein. C'est sûr que ces plantes-là poussent très rapidement si l'eau s'accumule. Donc, peu importe ce que vous prenez, elle est vraiment à vous de décider. Là. Je ne peux pas être plus précis que ça. Substrat, ça existe des terreaux pour succulentes, cactus et succulentes. Ça existe, on peut en acheter. Par contre, on peut prendre n'importe quel terreau et ça fonctionne tout aussi bien. C'est ce qui est arrivé, juste rapidement. Il y a une quarantaine d'années maintenant, on a fait beaucoup d'études sur les terreaux. Avant ça, on mettait n'importe quoi, n'importe quelle terre en sac, puis on le vendait. Ouais. Des insectes, des microbes, plein de choses, tout comme ça. Mais on a commencé à les étudier, puis on a développé des terreaux qui étaient mieux drainants et qui étaient très aérés parce qu'on s'est aperçu que les plantes poussaient mieux comme ça. C'était pas juste les plantes comme les légumes et les fleurs, mais les succulents aussi. C'est ça qui fait que même un terreau non potage ordinaire de nos jours est bon pour presque toutes les plantes. Il y a des exceptions. Les orchidées ont besoin d'encore plus d'aération. Donc, ça prendrait un terreau pour orchidées. Mais si vous voulez mettre vos succulents dans un terreau non potage ordinaire, c'est parfait. Si vous voulez mettre vos plantes dans un terreau spécialement pour les succulents, allez-y, pas de problème. Vous voulez créer votre propre terreau pour les succulents. Ça, ça va aussi. Mais en général, là, c'est pas un problème majeur. Et pour le reste, pas mal ça. Le plus important pour les succulents, en fin de compte, c'est un bon éclairage. C'est vraiment le secret. Et bien sûr, de les laisser sécher avant de les arroser. Voilà.
Mihaela Andronescu, elle dit, « J'ai plusieurs trilles dans mon boisé que j'aimerais déplacer. Est-il vrai que quand les déplaçants elles ne fleuriront plus, au moins pour quelques années. Merci.
Oui, les trilles sont très... Les trilles, en fait. T-R-I-L-L-E, trilles. Les trilles sont difficiles à déplacer. C'est un problème connu. Mais vous comprenez, vous avez une seule tige, trois seules feuilles par plante. Et si vous brisez cette tige-là, vous allez tuer la plante, au moins que ce soit vers la fin de la floraison. Et au fond, quelque part, en profondeur, il y a un petit bout d'horizon. C'est ça qu'il faut récupérer sans briser rien. Donc, c'est difficile d'aller chercher exactement ça. Si vous voulez le faire, attendez bien après la floraison, peut-être au mois de fin de juin, quelque chose comme ça, et essayez de faire avec des grosses pelletées et transporter les pelletées au complet sans trop déranger. Mais c'est vrai que nous, c'est difficile, malheureusement. Ces plantes-là, difficile de transporter parce que ce sont des plantes très fragiles. Voilà.
Françoise Ducharme, y a-t-il un produit pour faire disparaître le vert blanc sur la pelouse? Ils font plusieurs trous dans notre pelouse.
OK, voilà. Bah, écoutez, ce n'est pas les vers blancs, c'est les animaux qui mangent les vers blancs qui font des trous. Comme, par exemple, ça peut être des moufettes, ça peut être des ratons laveurs ou autres. Eux, ils creusent, ils vont chercher les vers blancs qui sont là. Et voilà. Donc, ça, c'est juste un détail. Et, il existe maintenant des produits pour traiter les pelouses contre les vers blancs. D'abord, il y a des nématodes qui sont sur le marché depuis quelques années déjà. Les gens se découragent un peu parce que les résultats ne sont pas du jour au lendemain. C'est à long terme, mais ça fonctionne pareil. Il y a maintenant aussi des champignons bénéfiques qui sont plus rapides. Le champignon en question s'appelle BTG, Bacillus thuringiensis gallerii. C'est spécifique aux larves de certains coléoptères, notamment des scarabées, donc les larves des et hannetons, scarabées, etc. Et vous devez l'appliquer quand même au moment où ça mange. Donc, normalement, c'est un bon moment parce que les jeunes qui étaient cachés, endormis en profondeur pendant l'hiver, remontent actuellement et commencent à manger les racines. Ce sera un bon moment parce que pour que ça fonctionne, il faut que l'insecte ingère les spores de la maladie. Et là, c'est ça qui les tue. Donc, ce sera un bon moment. Puis on peut aussi l'appliquer plus tard au cours de l'été, quand la deuxième génération commence. Mais je n'ai pas d'expérience personnelle avec ces produits-là parce que je n'ai pas de problème de vert blanc. Mais il y a des gens qui me disent que ça va très bien, d'autres qui disent que ça va moins bien. Donc, c'est comme n'importe quoi dans le fond. Ce n'est pas toujours évident de contrôler un insecte. Voilà.
Désolé, j'avais fermé mon micro. Donc, Brigitte Roy écrit qu'il y a beaucoup de petits œufs ronds, jaunes, orangés dans la terre de mes pots et dans mon potager. Ami ou ennemi?
OK. Ben, d'abord, je peux voir, ça peut être un engrais. Certaines sont en forme de billes. Ça peut être aussi des œufs comme de limaces ou encore de scargouilles. Pas vraiment beaucoup de ce que vous au Québec, mais peut-être ça. Mais autrement, je ne sais pas trop. Il y a plein de possibilités. Donc, je n'ose pas me prononcer dans ce cas-là.
Hélène Hood, est-ce qu'on peut planter les annuels cette semaine?
Oh là là! Évidemment, quand il fait beau, on a toutes sortes de planter. Mais c'est de bonheur. Hein? N'oubliez pas que les nuits seront encore fraîches. C'est pas possible qu'on reste avec la température estivale. À cette date-ci, c'est beaucoup trop tôt. Donc, quand vous commencez à voir, à tous les jours, quand on dépasse 13 degrés la nuit, 12 peut-être, mais 13 surtout, ça, c'est un moment où on peut penser faire ça. Donc, si je regarde la météo pour la ville de Québec, par exemple, dans deux semaines, on peut avoir 14 jours maintenant, on voit que ça baisse souvent en bas de 8. Là, on est loin de pouvoir faire ça. Mais ça va venir. C'est tellement si tôt. Habituellement, c'est toujours trop tôt. Il y a quand même, juste pour dire, quelques exceptions. Des annuelles plus résistantes que d'autres, au foie. Et c'est normal, c'est des plantes très différentes. Mais on peut planter, par exemple, des pensées ou des méphilies. Ces deux-là, ce sont des plantes qui viennent non pas du sud de l'Europe, mais du nord de l'Europe. sont parfaitement capables de faire une touche de gel de temps à autre. Et les nuits froides, ça ne nuit pas du tout. Donc, ces deux-là, on peut les planter maintenant. Et pour les autres, attendez un peu. La plupart sont très fragiles, surtout les impatientes et les bégonias, qui ne tournent même pas 10. À 10, ça commence à mal aller. Et qu'il faut faire très attention avec ces vérités-là.
Juste regarder, Larry, pour Québec, là, je ne parle pas de Montréal ou d'autres régions, mais pour Québec, à partir de vendredi dans la nuit, on se tient à 11, 12, 13, 14.
Oui, mais ça, c'est cette semaine. Si on regarde une autre semaine, je suis certain qu'il va y avoir le baisse en bas de ça. C'est la méthode, c'est toujours comme ça de cette saison-ci. Habituellement, ça dépend où on est au Québec, bien sûr. Mais habituellement, avant de dire qu'on peut planter des choses en toute sécurité, à l'extérieur, on peut souvent le faire à la fin de mai, à Montréal, dans la région de Montréal. Ailleurs dans la province, c'est rarement possible avant le début du juin. Et quand je fais mes calculs de plantation, moi, les plantes que je vais repiquer en plein terre et pas avoir à m'en occuper, parce que la température est correcte, je vise la date que j'ai en tête, c'est le 11 juin. Passer le 11 juin habituellement, on est correct pour ne plus avoir des nuits fraîches. Voilà.
Je regarde peut-être sur un autre site très rapidement.
C'est la deuxième semaine qu'il faut regarder là.
Ouais.
Correct.
Ouais, t'as raison, regarde, à partir du 17 mai, 8 degrés la nuit, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés. Pour Québec, là, j'entends, là, j'ai pas regardé d'autres villes, par contre.
Et ça, c'est normal, cette saison-ci. On devient vite encouragé quand il fait un peu chaud, mais évidemment, si vous voulez planter maintenant et couvrir vos plantes, ça, vous pouvez surtout... Supposons, je ne sais pas votre situation. Si le sol est chaud ou touché, chez moi, ce n'est pas le cas. Il a beau faire chaud, le sol est encore froid. Mais si le sol est chaud ou touché, il faut toujours planter et couvrir la nuit. Donc, cette semaine où il n'annonce pas de grand frais la nuit, peut-être. Pour la nuit, on pourrait peut-être laisser les plantes exposées, mais la semaine prochaine, peut-être les couvrir avec une toile la nuit. Mais c'est beaucoup de temps.
Je pense que par le passé aussi, tu avais déjà mentionné que un 20 degrés, par exemple, maintenant, et un 20 degrés en juillet, c'est pas le même 20 degrés, étant donné que le sol est encore froid. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai. Et reste que ce qui arrive dans le Nord, partout, pas juste au Québec, c'est que le soleil est plus fort et chauffe, mais la chaleur ne dure pas. Ça, c'est typique du printemps. Puis l'été, c'est quand on arrive au point où on a chassé les fonds de froid. Et là, quand ça chauffe, ça reste chaud. Donc, c'est la grosse différence entre les deux saisons.
OK. Bon, on va retourner aux questions des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. On va y aller avec la question de Stéphanie Bousquet. Avez-vous eu vos boutures pour votre mur végétal? Sinon, quelles sont les variétés que vous aimeriez? Vos admirateurs pourraient vous en poster à une boîte postale ou votre maison d'édition?
Oh, wow! Hey, ça, c'est une bonne offre, ça. Écoutez, d'abord, la première chose que je veux dire, c'est envoyez pas ça à la maison d'édition. La maison d'édition, c'est le Burkett Incorporé. C'est à Saint-Constant. Et je ne vais jamais là. Ça ne se rendra pas en bon état. Si je voulais envoyer quelque chose, il faudrait envoyer ça chez moi. Je ne pense pas que j'ai caché mon adresse à nulle part. Évidemment, c'est facile à trouver, mais en tout cas, c'est à Sainte-Foy, Québec, en fait, Québec. Et c'est 31-77 Milleret, M-I-L-L-E-R-E-T. Et donc, vous trouvez ça, je pense, sur mon site web, quelque part. Soit on peut des cadeaux. Ah, oh, je dis pas non pour des cadeaux. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour le mur? Donc, on se rappelle, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, le mur végétal, c'est un mur d'Écosse, chez moi, dans ma salle de bain. Qu'on a dû refaire. Après 19 ans, il avait commencé à avoir de la pourriture. Donc, il fallait qu'on refasse. C'est mon fils qui a fait tout ce travail-là. J'ai pu la physique pour faire des choses semblables. Donc, il a tout refait ça. C'est moi qui, quand même, qui plante les boutures. Ça, j'ai encore qu'il avait à faire ça. Et donc, tout ce que je fais, je prends des boutures de plantes intérieures, c'est à l'intérieur, le mur, et je les emballe de mousse et je les pique ce mur. Et je laisse bien la nature s'en occuper. il y a de la nature. Bon, pas de la nature. Je laisse la nature, si on veut. Parce qu'il y a quand même une pompe qui arrose le mur une fois par jour. Donc, les plantes reçoivent de l'eau une fois par jour, prennent racine et poussent. Actuellement, j'ai utilisé des plantes que j'avais chez moi. J'ai quelques fougères, pas beaucoup. J'ai beaucoup de plantes de la famille des araceées, comme les philodendrons, des potos, syngonium, des choses semblables. J'ai quelques papyromias. Toutes les plantes qui poussent en épiphyte dans la nature, qui poussent avec leurs racines dans le fond presque à l'air. Donc, ces plantes-là, je les ai mis. Si vous pouvez m'envoyer des boutures, c'est pas la peine d'envoyer des plantes, parce que c'est des boutures que j'utilise. Allez-y, on verra bien si je suis capable de faire quelque chose avec. Moi, j'adore expérimenter. Parce que justement, ce qui m'embêtait un peu en faisant le mur, c'est que la première fois que j'ai fait le mur, j'ai pu faire des commandes postales. J'ai fait venir des plantes partout. Mais ce qui arrive, c'est plus difficile d'apporter les États-Unis. C'était il y a 20 ans. Et localement, je ne trouve rien d'intéressant. Vous savez, à l'époque, on vendait des boutures. Je faisais venir des boutures. Là, on est venu vendre des plantes de 49 $ pour un plant. Alors que je veux une longueur de tige, ça de long. Et le reste va aller au compost. C'est plate. Fait que je me suis limité pas mal à ce que j'avais. Et sans faire jardin non plus, ne vendent pas de boutures. Fait que... Non, envoyez-moi des boutures. Moi, je fais... Ça me ferait plaisir de découvrir. Pensez quelles plantes poussent dans la nature. Sur les branches d'arbres, des plantes épiphytes, ça pourrait être intéressant à essayer. Mais ça ne me dérange pas. Merci beaucoup pour la suggestion. C'est Stéphanie, je pense. Mais j'aurais jamais pensé à poser des questions. D'ailleurs, peut-être une chose à dire. Oui, pourquoi pas parler de ça? OK, donc je coupe dans vos questions, mais j'ai eu tellement une belle expérience cette semaine. Vous savez que c'est quand même assez évident que j'ai plus la capacité physique de faire beaucoup de choses. Juste aller de la salle de dîner au salon et je dois m'asseoir 5 minutes, je reprends mon souffle. Donc, je suis rendu à ce stade-là. Donc, mon terrain, comment s'occuper de mon terrain? Ben, j'ai engagé de façon une amie à moi, Hélène, qui vient une fois par semaine, qui fait le gros et arrose mes plantes maintenant, même mes plantes intérieures, même à l'automne, j'ai dû dire, écoute, Hélène, je ne suis plus capable de rousser. C'est pas de bon sens. Hein. J'ai plus la force de rousser. Fait qu'elle rousse mes plantes. Puis elle s'occupe des plantes. Mais mon aménagement était toujours fait pour marcher tout seul. Et c'est pas tout à fait tout seul. Fait qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. Mais il y a une dame qui s'est offerte de la région. Et elle m'envoie une courriel il y a 2 semaines. Elle a dit, si vous voulez, on pourrait vous donner un coup de main. Je pourrais ramasser quelques personnes et faire un peu de déménage chez vous. Ben écoutez, quoi ou pas, j'ai élevé donc une équipe de jeunes bénévoles qui ont fait le grand terrain qui n'avait pas été fait depuis quelques années. Donc, ça fait du bien. Et donc, je suis bien content. Donc, c'est le fun. Mon terrain a de l'allure. Et en tout cas, moi, j'adore mon terrain. Mais je l'adore. Donc, je suis bien content de le voir qui est le revenu beau. Donc, merci beaucoup aux bénévoles qui m'ont aidé. Et notre Sylvie qui a organisé ça. Merci.
Parlant d'une Sylvie, Sylvie Durette écrit... Est-ce que c'est elle? Je te vois sourire.
Non. C'est juste... C'est vrai que c'est curieux.
Donc, elle dit, je dois transférer un fusain de fortune mature. Puis-je le faire maintenant? Puis-je le faire maintenant, même s'il est en train de se réveiller et qu'il fait un peu chaud? Zone 5B à Longueuil.
Oui, vous pouvez le faire. C'est sûr que ça va être un peu un choc. Mais arroser, garder sur les miels, arroser souvent, ça va revenir. C'est une plante qui est, comment dire, en bon québécois, tough. C'est résistant. Donc, des fois, je pense pas que vous aurez de problème. C'est sûr que vous pouvez avoir quelques feuilles fanées, peut-être que la plante récupère un peu moins vite. Mais je pense pas que vous aurez de problème. Donc, attendez pas trop quand même, mais c'est quand même correct encore.
Un autre Sylvie, celle-là, c'est Sylvie Yvon. Elle dit un pic a commencé à abîmer l'écorce de l'arbre cet hiver. Mon petit érable de l'amour planté il y a 2 ans et qui est en forme. Un vendeur dans une pépinière m'a conseillé de bien nettoyer et appliquer le lac balsam, entre parenthèses, écorce artificielle, et que ça peut décourager ce pic. Qu'en pensez-vous?
Je connais pas lac. Lac balsam, ça ne me dit rien du tout. Le baume, je sais pas parce que ça me fait penser peut-être un peu c'est un baumier, mais je comprends pas exactement c'est quoi le produit. Ce serait une colle probablement. Ça pourrait peut-être marcher. Habituellement, d'ailleurs, est-ce que ça revient constamment? C'est venu une fois puis est parti, ben là, c'est plus un problème. Mais ça se peut, hein? Les pics choisissent des fois des arbres et on décide que c'est là la place. Et ils reviennent encore et encore. Les produits collants, on peut les placer. Il y a un produit, et dont je vais oublier le nom, bien sûr, qui s'appelle. Oh, un produit collant qui se vend en centre jardin, justement, qui sert à ces choses-là. Mais il faut toujours essayer ça aussi. Ou les gens vont des fois couvrir avec du papier d'aluminium ou une feuille, une barrière quelconque de grillage pour les décourager. Mais pas toujours évident de repousser un oiseau qui a en tête que c'est là qu'il veut faire ses trous.
Éric Bellavance, si on retire les fleurs de tulipe avant la floraison, entre parenthèses, pollinisation, il n'y aura pas de graines de tulipe. Mais est-ce que le fait que la tulipe ne soit pas pollinisée va réduire ou empêcher la multiplication des bulbes sous terre?
Ça va probablement le stimuler. C'est que la plante a différentes façons de se reproduire. Le plus important pour la plante, c'est la pollinisation, pas semence, parce que là, ces graines peuvent aller plus loin et donc, logiquement parlant, mieux se reproduire, plus s'établir, parce que les conditions locales peuvent changer. Donc, c'est toujours bien qu'une plante s'étale à quelque part. Donc, les semences, c'est l'idéal. Quand on empêche de le faire, la plante reste avec un peu plus d'énergie. Elle pourrait faire, par exemple, un bulbe plus gros, mais ça va stimuler aussi la plante à prendre plus de bébés bulbes à la base. Voilà ma réponse.
Claire Messier aimerait savoir pourquoi que les feuilles de mon cyclamène sont fripées, genre recrevillées. Merci.
C'est probablement la chaleur et la sécheresse, surtout mes chaleurs. Le cyclamène est une plante qui, dans la nature, pousse dans le sud de l'Europe, la Méditerranée. Et donc, pour comprendre le climat, c'est qu'il y a peu de sucre comme le nôtre. L'été, beaucoup de plantes entrent en dormance et ça se met à pousser mois d'octobre, mois de novembre, quand la fraîcheur revient et les pluies reviennent. Et quand les pluies arrêtent, la plante entre en dormance. Donc, votre plante est habituée à rentrer en dormance maintenant parce que sa saison de croissance, c'est l'hiver. Et donc, elle commence à se préparer à dormir. Vous pouvez la maintenir en vie artificiellement si vous continuez bien l'arroser et vous le protégez de la chaleur. Mais ce n'est pas toujours évident. Des fois, c'est plus facile de laisser la plante aller en dormance. Dans ce cas-là, vous arrêtez les arrosages, la plante perd tout son feuillage, et là, vous allez trouver dans le sol, pas besoin de déterrer, là, vous allez découvrir qu'il est dans le sol, il y a une corme, c'est comme un genre de bulbe. Et la plante va rester en dormance pendant la chaleur de l'été. Normalement, tout seul, à quelque part vers la fin d'octobre, mois de novembre, la plante est dans son pot, vous l'avez mis à quelque part, sans arroser, à la lumière ou à l'orceur, peu importe. Et tout d'un coup, vous voyez de petites feuilles qui commencent à sortir. La plante est en train de dire, je suis prêt à repartir. Et là, vous l'arrosez de nouveau, vous le mettez dans l'eau pas trop chaud, et ça recommence à fleurir. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous avez le choix. Soit vous le laissez entrer en dormance, c'est ce qu'elle veut faire, ou encore vous le forcez à rester en vie en arrosant. À vous de décider.
Marise et la fortune, quel est le jardin le plus exceptionnel que vous ayez eu l'occasion de visiter? Pourquoi était-ce exceptionnel au Canada, aux États-Unis ou à l'international, comme vous voulez?
J'ai tellement vu de voyages dans ma vie. Je peux vous dire, c'est facile. Mon jardin préféré demain, Longwood Gardens. Longwood Gardens, ou jardin Longwood, c'est situé en Pennsylvanie, à peu près une heure de Philadelphie, vers l'intérieur. C'est un grand jardin en superficie C'est le propriété d'une milliardaire de l'époque, Samuel Dupont. Et ce jardin-là est maintenant dans le domaine public. Excusez. Mais on peut le visiter. Oh, il y a tellement de choses. Ce que j'aime dans ce jardin-là, c'est qu'il y a de tout. On voit de plantes ornementales aux plantes comestibles, vergers. On a une prairie sauvage. On a une forêt. On a des collections d'arbres. On a des arbustes. On a des aménagements de toutes sortes. Un jardin de pivoine. Un jardin de glycine. On a d'énormes serres avec toutes sortes de choses. On a des serres de montres. On fait des présentations qui changent selon la saison. On a des jardins qui ne changent pas. Les serres, il y a même une salle de bal. Salle d'orgue. Quoi? Il y a une maison dans ces vaches jardins aussi, qui est assez extraordinaire aussi, parce que la maison, en fait, est comme une maison avec deux ailes, à trois maisons. Disons que c'est un camp en C, c'est bon. Et la partie milieu est une serre. Donc, même la maison est une serre. Oh, c'est incroyable, incroyable, ce jardin-là. J'ai été, je ne sais pas combien de fois de ma vie, peut-être 40 fois, et chaque fois, je fais des belles découvertes. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà. Mon jardin préféré, c'est Longwood Garden.
Jeannette Ouellet a dit que ça permet une seconde question puisque c'est tranquille ce matin. Elle dit « J'ai semé à l'intérieur plusieurs fleurs, vivaces et annuelles, dans l'espoir d'une floraison peut-être plus hâtive. J'ai bien entendu votre réponse sur les annuelles plus tôt et je vais attendre pour les sortir. » Entre parenthèses, Lobélie, Erine, Lavatière et Pétunia. Et elle continue en disant, qu'en est-il des vivaces? Aubrietti, Ancoli, Potentil, Pois vivaces.
OK. Donc, c'est vrai que c'est deux groupes différents. Quand même, vous pouvez sortir vos hôtels annuels, sauf une fois prêt à les rentrer le soir. Il se trouve parmi les annuels dont vous avez parlé, vous avez sorti deux qui tordent pas mal de fraîcheur. Parce que la plupart des annuels, c'est chaud, chaud, chaud tout le temps. Mais là, vous avez l'Obélie Erin qui aime le foie pas mal. Et vous avez le Lavater aussi qui aime ça. Fait que là, vous avez deux exceptions à la règle encore. Mais le pétunia, non. La pétunia, c'est la chaleur. Donc, juste pour dire. Mais quand même, on peut les sortir le jour. C'est juste, et peut-être cette semaine, je ne sais pas, chez vous, peut-être que c'est correct le soir même cette semaine, je ne sais pas. Mais les semaines suivantes, pendant quelques temps, il faudrait faire attention à les planter en permanence dehors. Maintenant, pour les vivaces, moi, je dirais maintenant, c'est parfait. Oui, la climatique est maintenant. Quand même que les vivaces soient plus fraîches, pour les vivaces, c'est autre chose complètement. Le fait que les plantes aient vivaces sous notre climat, parce que par définition, une plante est vivace là où elle peut passer l'hiver. Donc, si cette plante-là est vivace chez nous, rustique chez nous, vous pouvez la sortir maintenant et la planter. La climat est d'abord. Et juste pour expliquer avant d'aller plus loin. La climat est de quoi? Prendre une plante qui était abritée toute sa vie à l'intérieur sous une chaleur plus ou moins constante, là-bas, et la faire subir la vraie vie où ça change. Donc, on va souvent faire 2-3 jours à l'ombre avec la plante, 2-3 jours à la mi-ombre, et 2-3 jours au soleil, encore en pot, pour que la plante ait subi changement de température, changement de pression, etc., etc. Et là, on va les planter. Et ça, vous pouvez faire ça maintenant pour les vivaces. Si jamais, alors, une série de gel, d'habitude, de cette saison-ci, les gels éminents, mais série de gel, je les recouvrirai. Mais autrement, ça devrait être correct.
Bonjour, M. Hodgson. Excuse-moi, j'étais concentré ailleurs. Que pouvez-vous me dire à propos de l'édème chez les plantes et des pointes sèches des anthurium à rare, comme un anthurium cristallinum, par exemple? Ce sont deux problèmes auxquels je suis confronté de temps en temps par rapport à l'arrosage. Mes plantes sont en terreau avec un système de semi-hydropassif. Merci.
OK. Là, vous êtes dans les plantes plus compliquées. Hein? Moi, j'adore les anthuriums. Moi, j'aurais si j'avais l'espace et les moyens, j'en aurais les anthuriums. Vous n'avez pas l'idée. D'ailleurs, j'ai dû donner un énorme anthurium l'an dernier. Je n'avais plus de place. Elle devait mesurer peut-être 1,5 mètre de haut et autant de large. Je n'ai plus 4 heures et ça, c'est pas bon, ça n'a pas de bon sens. Mais certains sont plus faciles que d'autres. Donc, vous avez parlé d'anthurium en général et odem. Juste pour que les gens sachent de quoi on parle. L'odème est un problème qui fait que les feuilles ont l'air d'avoir une maladie. C'est comme boursouflés, des petits bouts boursouflés. Ça est là où beaucoup, ça dépend. Et chaque plante est différente. Les pélargoniums en font, les anthuriums, comme vous le dites, mais plus les autres peuvent faire ça. Et l'odème est simplement une question d'arrosage. C'est que la plante a absorbé tout d'un coup trop d'eau. Et l'eau monte rapidement aux feuilles, ne sort pas assez rapidement parce que les plantes perdent l'eau par la transpiration, mais ça peut être trop humide et une cellule ou deux éclate. Et ces cellules endommagées, ça crée l'odème. Donc, c'est physique, c'est dérangeant, c'est pas mortel ou même très nuisible à la plante. Donc, vous avez cet aspect-là. L'odème, donc, c'est une blessure physique causée par un excès d'eau à un moment donné. Vous parlez des pointes brunes aussi. Les pointes brunes des feuilles, c'est causé par mille et une choses. Mais en général, c'est signe que l'eau ne se rend pas correctement. Donc, vous êtes confronté à une situation où l'anthurium aimerait avoir plus d'humidité, plus régulièrement, mais pas trop à la fois. Et comme vous avez un système semi-hydropassif, il va falloir avoir moyen d'arriver à une façon peut-être de l'inonder une fois par jour et laisser sécher par la suite. Ou, je vous laisse cogiter ça. Simplement que c'est comme l'eau, il faut que ça arrive et ça disparaisse. Et les anthuriums, pour ceux qui ne connaissent pas ces plantes-là, c'est la plante de la famille des Aracées, c'est des plantes avec des grosses racines épaisses. Et elles sont similaires aux racines des orchidées. Elles absorbent l'eau très rapidement. Donc, dans la nature, ça pousse. Bon, là, simplifier les choses. La plupart, du moins, sont épiphytes. Elles poussent les branches d'arbres, les troncs d'arbres. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que l'arbre s'assèche entre deux pluies. Mais les racines, quand il pleut, absorbent l'eau rapidement. Donc, elles sont à moitié exposées, absorbent l'eau quand il pleut, mais sont assez épaisses pour ne pas perdre tout l'eau quand ça commence à sécher. Donc, votre but, ce serait de trouver le moyen de donner le bon niveau de l'humidité en tout temps. J'ai beaucoup de succès avec les anthuriums sur un mur végétal, où justement mon mur est inondé une fois par jour et ça sèche complètement pour la suite. Donc, j'ai comme combiné deux besoins. Le fait que la plante ait de l'humidité sur les racines, mais que l'eau, le surplus disparaît tout de suite. Ça peut être quelque chose à envisager, mais en tout cas, c'est difficile. Et là, vous êtes tellement chanceux d'avoir un anthurium cristallinum qui a des belles feuilles en forme de cœur avec des striures argentées. Oh, un plante dont j'ai rêvé toute ma vie. Donc, bonne chance avec ça.
Mu-Saint-Onge, y a-t-il des producteurs spécialisés qui offrent des légumes vivaces tels que la roquette sauvage, épinard, du cocasse, etc.? Cet épinard est-il épais et gélatineux comme l'épinard du Malabar? Merci.
Je ne connais pas de spécialiste dans les légumes vivaces. D'ailleurs, c'est un article que je vais écrire bientôt, mais ça serait tellement compliqué d'écrire. Vous n'avez pas l'idée des fois. Des fois, je repousse des choses, seront compliquées. Mais parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec ces plantes-là. Mais je ne connais pas de spécialiste. Et pourtant, avec la permaculture qui est super populaire, ça ne se prend toujours que ça n'existe pas. Certains vendeurs de plantes et de semences offrent quand même des semences de ces plantes-là. Donc, il y a moyen d'acheter telle plante ici, telle plante là-bas et augmenter sa collection. Mais il faut penser aux plantes qu'on trouve presque jamais au Québec, comme le poireau perpétuel qu'on trouve partout en Europe, qu'on a la difficulté à trouver au Québec, le chou perpétuel qui n'est pas assez rustique. En tout cas, c'est compliqué. C'est ça que j'ai hésité même à écrire un article sur le sujet. Je dois dire que je ne connais pas du tout la culture de l'épinard du Caucase. Je ne sais même pas quelle espèce que c'est. Donc, c'est une chose simple. Je vais noter ça. Pour une autre fois, j'essaie de m'informer. Et c'est... Souvent, c'est une question de nom. Hein? Quand on me donne un nom comme zéro, quand je connais le nom botanique, je dis « Ah! Ben voilà, c'était... » Vous savez les noms de plantes, là? Ça varie partout, partout. Et moi, je ne me fie pas à ça. Voilà.
Justement, qu'est-ce qui explique le fait que une plante va avoir un nom au Québec, au Canada, va avoir un nom différent aux États-Unis, en France?
C'est que les noms communs viennent du peuple. Quelqu'un qui rit, supposons que vous êtes un nouveau immigrant, vous venez d'Europe, vous arrivez en Amérique du Nord. Et vous, vous voyez dans le sol une plante que vous ne connaissez pas. Super. Ça ressemble un peu à une chêne. Puis vous voyez bien que ce n'est pas une chêne, vous êtes une faux chêne. Puis le nom va passer dans le langage populaire. Ailleurs, quelqu'un le voit et dit « Ah, il me semble que ça ressemble à une aubépine. » Alors, moi, je vais appeler « fausse aubépine ». En tout cas, c'est le genre de choses comme ça qui se passent partout. Et chaque région finit par avoir son nom. Avec le temps, certains noms deviennent plus populaires que d'autres, mais je pense que c'était quelqu'un qui avait déjà fait pour l'impatiente quelque chose comme 1020 noms communs pour l'impatiente en France. 1020 noms communs! Ah, on ne peut presque pas parler de noms communs, hein? Un seul nom botanique. Mais les gens comme moi, quand on me donne un nom commun d'une plante, il faut que j'essaie de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas toujours clair. Parce que épinard, je pourrais penser que c'est la famille des épinards. Donc, quelque chose qui serait proche d'un épinard, donc de la même famille, la famille des betteraves, etc. Mais ça se peut que ce soit parce que ça ressemble à un épinard, pas que ce soit un épinard. Caucase, c'est la région. Il faut que je trouve qu'est-ce que ça veut dire. J'ai aucune idée comme ça. Voilà.
On va retourner aux questions qui sont sur le chat maintenant. Est-ce que c'est le bon temps pour bouturer des petits fruitiers ou des arbustes?
Si vous enlevez des boutons de fleurs, oui. Il ne faut pas laisser les boutons, bien sûr. C'est que quand une plante est comme axée sur la floraison, elle ne fait pas grand-chose d'autre. Donc, on peut enlever les fleurs sérieusement et les bouturer. Le bouturage se fait dans un terreau un peu humide. On demande d'enracinement est toujours important pour tout ce qui est de boutures ligneuses. Et on va garder ça à l'étouffée. Forte humidité. Donc, avant de commencer. Taux de succès, très variable. Ça dépend de quoi. Général, plus c'est gros, plus c'est difficile à bouturer. Exemple, la plupart des boutures, fruits, les boutures. Je recommence. La plupart des arbustes fruitiers se bouturent assez bien. Les arbres, beaucoup moins. L'un des pires, c'est les pommiers. À tel point que vous allez entendre des gens dire « ça ne se bouture pas ». En fait, ce n'est pas vrai. Ça se bouture. Mais le taux de succès est terrible. Et que, voilà, c'est des expériences. Prenez toujours plus qu'il faut. C'est toujours la règle quand on fait des boutures de fruitiers.
Pardon. André Simard te fait un commentaire. Il dit « Vous donnez tellement et il est mérité que vous receviez cette aide bénévole.
Oh, » ben moi, j'ai vraiment apprécié ça. Je n'aurais pas pensé de demander. Moi, juste pour dire à quel point que c'est bizarre, je ne peux même plus me promener sur mon terrain. Il faut que je traîne une bonbonne d'oxygène pour le faire. Mais même avec le bonbonne, le fait de bouger fait en sorte... Je suis en insuffisance d'oxygène tout le long. Donc, c'est extrêmement désagréable. Dès que je regarde mon terrain, des fenêtres, je me rends sur la galerie et je regarde. C'est ça, Jodney, pour moi. Évidemment, j'inspecte mes plantes intérieures à tous les jours. Parce que là, je peux les approcher, les toucher. Je les adore. Voilà.
Donc, on va y aller avec une autre question, celle de José René. Peut-on changer de place un cœur saignant vivace? Peut-on rapetisser un spire? En fait, c'est deux questions.
Spirer, probablement.
Spirer, oui, excuse. Spirer, parce qu'elle n'avait pas mis d'accent.
Okay, d'accord, parfait. Donc, cœur saignant. Oui, on peut déplacer un cœur saignant. Le grand cœur saignant, c'est le cœur saignant qui est en fleur, ces temps-ci ou va être en fleur bientôt, le grand est quand même une plante qui n'aime pas trop ça se faire brasser. Fait que prenez une belle grosse motte. Le moment idéal serait été vraiment plus tôt que ça. avant que ça commence à pousser. Mais faites-le maintenant. Même si c'est un choc, la plante est restée très résistante. Elle va être capable de récupérer. Au moins l'an prochain, elle devrait bien fleurir. Donc oui, on peut le transporter. L'espirée maintenant, raccourcir absolument. L'espirée est un arbuste, et comme la plupart des arbustes, ça peut repousser de presque rien. On pourrait prendre une spirée qui mesure, comme une spirée d'un autre, qui est l'une des plus grandes, qui peut mesurer 3 mètres de haut, le réduire à 20 cm de haut, et ça va repousser. Les vieilles plus petites, comme l'espirée du Japon, qui fleurit tout l'été, lui, on peut le réduire à 10 cm et ça repousse complètement. Donc oui, on peut le faire sans problème.
Cécile Grondin. Elle dit, j'aimerais connaître le nom de la clématite avec une longue floraison et facile.
Oh, ben là, il y a tellement. De toute façon, le plus. Moi, je dirais, simplement, Jack Manny. Je vais l'épeler parce que c'est pas évident de trouver, c'est déjà ça. Moi, ça me fait penser, bien sûr, au village de Jack Manning, qui est le village le plus proche de chez moi, aux États-Unis. Mais Jack Manny, c'est J-A-C-K-M-A-N-I. Jack Manny. Et c'est une variété, parce qu'il y a d'autres variétés qui fleurissent très bien, qui fleurissent longtemps. Mais cette plante-là est disponible partout parce que ça va bien. Tout le monde a réussi. Et pourquoi pas encourager une plante qui donne des bons résultats. Voilà.
La prochaine question est de Lise Doyon. Les longues tiges des mûriers perrons qui n'ont pas encore des feuilles en feront-elles plus tard ou si elles ont gelé?
Oh! Ça se peut que c'est gelé. C'est quand même... OK. Les mûriers, là, on parle des ronces. Vers cultiver la forme habituelle qui vient de l'Europe. On a nos ronces indigènes. Mais la forme qu'on cultive d'habitude, c'est variété européenne. Et la rusticité est limite. Théorie, zone 5B... 6, quelque chose comme ça. Mais on a trouvé des variétés plus rustiques, comme justement Perron. Mais plus rustique, ça ne veut pas dire que ça peut pousser au pôle Nord. Moi, je pense que ça se peut bien. L'hiver était, quand même, je le vois sur mon terrain, l'hiver était dur pour plusieurs plantes. On a eu une longue période de froid, vent asséchant, etc. Ça se peut que c'est gelé. Pas de façon de plante repart. Au moins, on sait avec ces plantes-là, ça va repartir du pied sans problème. Mais ça se peut qu'on perd la récolte une année et sans route.
On va y aller maintenant avec la question d'encore Lise Doyon. Est-ce que c'est une bonne idée de couper la tête des framboisiers qui sont très hauts?
Jamais pensé à ça. OK. Et donc, en haut des fleurs, il reste quand même que c'est du feuillage qui pousse et le feuillage, c'est bon pour la plante. Moi, je dirais que ça doit un peu réduire l'énergie, je ne veux pas. C'est bizarre d'abuser. Les deux, hein, les mûriers des ronces, les framboisiers, ça ne pousse pas comme les autres. On est habitué à une plante qui pousse en touffe, qui fait beaucoup de branches. Ça, c'est un arbuste habituellement. Mais ça refleurit tous les ans. Et là, les plantes qui font des tiges individuelles, qui fleurissent, qui ne refleurissent plus, après ça, d'autres repoussent. Donc, c'est un peu différent des autres. J'aurais quand même peur que ça enlève de l'énergie à la plante. Évidemment, si la plante a beaucoup d'énergie, ce n'est pas un gros problème. Et je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, par contre.
Cécile Grondin, est-ce que les algues liquides peuvent renforcer les tiges plus hautes? Peut-on ajouter en plus de l'engrais Actisol?
OK, oui. D'ailleurs, c'est intéressant pour compléter un peu. C'est que tout ce qui est d'algues liquides ou de poissons, ces deux groupes d'engrais-là sont des engrais vraiment très complets. Il manque absolument rien. Tous les oligo-éléments sont là-dedans. Que ce soit des oligo-éléments qu'on connaît comme le magnésium, le fer, mais des petites choses que les plantes ont besoin, une petite quantité comme le chlore, ou le bord, ils sont tous là-dedans. Donc, c'est pas mauvais de compléter. D'ailleurs, c'est peut-être l'utilisation la plus logique à faire avec des engrais d'algues ou de poisson. Parce que juste est riche comme tel, mais elles ont tout ce qu'il faut là-dedans. Fait que compléter, utiliser un autre engrais comme engrais de base, puis compléter avec cet engrais-là.
Possiblement la dernière question, celle de Thérèse Audet. Avez-vous des suggestions pour la plantation du maïs sucré? Nous sommes en Gaspésie, zone 4B.
Bon, évidemment, choisissez les variétés de saison courte. Vous ne savez pas 150 jours de culture, hein? Mais ça existe, on peut en trouver facilement. Et attendez que le sol soit plus chaud. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Normalement, ça serait au mois de juin, quelque part. Quand le sol est chaud au toucher, on peut y aller. Les fermiers vont oser des fois plus tôt, et ils ont des dates à respecter, etc. Moi, je ferais juste un petit peu attention. Ou encore, planter quand le sol commence à se réchauffer, puis recouvrir avec une toile pour donner un peu plus de chaleur. Ça, vous pouvez faire ça plus facilement chez vous que sur une terre à grande échelle.
Là, ça va être la dernière question. France Cloutier. Pour agrandir mon potager, je voudrais récupérer un coin de terrain ensoleillé ayant eu du pays de cèdre plusieurs années. Y a-t-il des légumes qui pourraient s'en accommoder, exemple pommes de terre, poivrons ou autres?
Aucun problème. Le pays n'affecte pas la qualité de sol. Hein? Les gens disent toujours que ça rend acide. Ça ne rend pas. Le pays n'a pas cet effet-là. Le pays ne fait que empêcher les mauvaises herbes de germer, garder le sol plus humide et plus frais, des choses comme ça. Donc, le fait qu'il y ait de paillis ou pas, ça va juste vous garantir que vous n'avez pas beaucoup de mauvaises herbes. La terre était peut-être riche à l'origine ou pauvre à l'origine, elle va l'être toujours. On peut toujours l'améliorer avec du compost, de l'engrais ou autre. Mais le fait que le paillis ait été là ou pas, ça n'a pas changé la qualité du sol. Surtout ce paillis-là, je souligne parce que le paillis de cèdre n'est pas riche. Donc, elle ne contribue pas. La plupart des paillis donnent de la richesse au sol, mais pas ce paillis-là. Ce paillis-là est comme neutre. Elle occupe l'espace, mais elle ne donne pas beaucoup en retour. Et voilà. Avec ça, on est à la fin de l'émission pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez revenir la semaine prochaine. Puis, on va essayer de trouver une réponse à mes questions sur l'épinard de Caucase. Voir si je peux découvrir c'est quoi. Donc, voilà le mystère pour la semaine. Voilà beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté. Gros merci, bien sûr, à Michel Bédard et à Marlène Bordelot qui sont occupés de l'émission à différents niveaux. Michel, vous l'avez entendu tout le long. Moi-même, je m'appelle Larry Hodgson. Et bien sûr, on va te retrouver la semaine prochaine, toujours le mercredi à 10h. Et visitez entre deux mon site web à www.jeuneperreçu.com.
Vous écoutez CKIA 88.
Et voilà.
Radio
Urbaine. Et parfait.
Super. La France Région organisme en prévention de la violence faite aux enfants, célèbre ses 30 ans cette année.
Bon, on y est arrivé.
Pour cette occasion, vous êtes invité à une fête familiale le dimanche 5 juin au domaine de Maizeray. Plusieurs prix de présence et activités vous attendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Pour connaître les détails, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace Région Québec.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui!
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume. Musique, entrevue avec des grands noms, des artistes de la relève, art visuel, art de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88,3 et CKIAFM.org. On vous y attend.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Mai 2022, mois de la poésie. Spectacle, art visuel, slam, musique, danse, création, rencontre, thé et poésie. Découvrez toute la programmation du mois de la poésie au www.moisdelapoésie.ca. Le mois de la poésie est rendu possible